Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Éric Lebel qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette nouvelle saison de Nouveaux regards sur notre histoire, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines. Une émission signée Jean-Charles Désiel et produite par la Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx sur les ondes de Radio Ville-Marie. Radio Ville-Marie, qui a d'ailleurs apporté de nombreux changements à son image corporative et que l'on connaîtra désormais sous le nom de Radio VM, au cœur de l'essentiel. Pour Jean-Charles Désiel, notre réalisateur et président de la Société historique de Montréal, il s'agit d'une 13e saison à la barre de cette émission. Une véritable histoire de passion, et tout ça bénévolement, s'il vous plaît. Alors moi, je trouve ça magnifique. Et merci encore, Jean-Charles, et bonne saison à toi, à toute l'équipe de production et à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Ce soir, toute l'émission sera consacrée à Marcel Mas, cette figure de proue de l'histoire politique du Québec qui est décédée le 25 août dernier à l'âge de 78 ans. Il s'agit des mémoires de Marcel Mas, historien, homme politique et ancien ministre. Cette entrevue est une rediffusion de l'émission présentée dans le cadre de « Nouveaux regards sur notre histoire » au printemps 2013, il y a un peu plus d'un an ici même, à l'antenne de Radio VM. Il s'agit de la première d'une série de 7 émissions que nous rediffusons pour honorer la mémoire de Marcel Mas. Aujourd'hui, ce fils de la région de Lanaudière nous parle de ses souvenirs d'enfance. Mais avant de laisser toute la place à Marcel Mas qui se confie à notre collègue Robert Comeau, nous vous proposons le témoignage de l'historien Denis Vaugeois qui a bien connu Marcel Mas.
Mais j'ai d'abord envie de dire que j'ai appris qu'il était malade un peu par hasard dans une conversation avec Sœur Madeleine Junot. Elle coupe la conversation tout d'un coup, puis elle me dit « Saviez-vous que Marcel Mas était très malade? » Et ma réaction, c'était de me dire « Bon, ben, tout le monde finit par être très malade. » Et puis Marcel m'apparaissait tellement énergique que je l'avais jamais vu malade. Je l'imaginais pas malade. Alors je me suis dit, j'avais dit à la Sœur Junot, ben, je dis « Il va s'en sortir. » Puis là, elle m'avait laissé un petit doute là-dessus. Donc, pour moi, Marcel Mas, c'était, on peut dire ça, une force de la nature puis une force de caractère. Je l'ai connu, donc, on était encore très jeunes. Lui était jeune professeur d'histoire à Joliette et moi, je venais d'arriver au ministère de l'Éducation. Donc, le rapport qu'on a eu au départ, c'est j'étais responsable de l'enseignement d'histoire, puis lui, il avait ses classes, puis il avait à faire approuver un examen. Donc, première fois que je lui ai téléphoné, c'est de lui donner l'avis qu'un comité avait émis sur l'examen qu'il avait préparé. Puis ça nécessitait des petites modifications. Puis il m'avait dit comme ça, ben là, il avait l'air hésité à prendre les modifications souhaitées. Alors, il me dit, ben c'est que je suis en campagne électorale. On était en juin 66. Je dis, ah oui? Fait qu'il me dit, ben il dit que je suis candidat. Ah bon? Puis là, j'ai osé dire, pour quel, ben, c'était, au fond, c'était public, pour quel parti? Ben il dit, Union nationale. Puis l'Union nationale avait mangé un coup en 60, hein, c'était en perte de vitesse, ça, là. Alors,
ça a été l'étoile de l'Union nationale.
On va dire ça. Et donc, je lui avais souhaité bonne chance. Puis dans mon fort intérieur, c'était sincère parce que on était tellement choqués contre les libéraux. Puis on voyait du patronage encore partout. La réforme scolaire, c'était pas facile. Donc, je lui ai souhaité bonne chance, puis il a senti que c'était sincère. Mais une chance pour moi, c'est que la fois suivante, on s'est reparlé, il était devenu mon ministre. Puis il a pris plaisir à me narguer un peu. Il m'a appelé dans mon bureau. Quand je décroche, la secrétaire m'a dit, « Le ministre veut vous parler. » Alors moi, j'étais terrorisé. Et je prends le téléphone. Je savais pas. Je pensais que ça allait être Jean-Jacques Bertrand. Je n'avais pas réalisé que Mars était faufilé comme ministre d'État à l'Éducation. Alors je prends le téléphone. Puis avec une grosse voix, il me dit, « Ici, Marcel Mas. » Puis il rigole. Là, c'est une chance que j'avais été gentil avec les corrections de l'examen.
Et sans doute, l'avez-vous rencontré souvent sur votre chemin dans toutes les relations France-Québec? Et c'est un long parcours.
Marcel Mars, là où il va vraiment donner le mieux de lui-même, s'est rendu à Ottawa. Il est très bon à Québec, là, il n'y a pas d'hésitation. Mais c'est plutôt dans le ton de l'action québécoise. Donc, il avait plus d'ouvrages à faire rendu à Ottawa. Et là, à Ottawa, là, il était terrible.
C'est quoi son bilan le plus positif? Parce qu'il est allé à plusieurs ministères, la défense, l'énergie, les communications. Hein? Est-ce que c'est l'apport pour les musées québécois, par exemple? Trouver de l'argent pour les musées, parce que les industries culturelles...
Il trouvait pas de l'argent. Il l'avait sur son bureau. Il était terrible. Il était d'une générosité à l'endroit du Québec. Écoute, les gens à Ottawa, là, puis à Toronto, ils voulaient l'assassiner parce que ça s'était jamais fait. Le Québec, c'était le parent pauvre de tous ces grands programmes-là. Et Mars, lui, c'était le contraire. Il appelait les gens pour leur dire « J'ai de l'argent pour vous autres. T'sais, bougez un peu, puis demandez-moi de l'argent, puis j'en ai. » Par exemple, il racontera que dans la série d'émissions, un de ses échecs, c'est le musée de la Nouvelle-France. Bon, je ne sais plus, je pense qu'il avait mis de côté 60 millions, puis il bouscule les gens pour accepter l'argent du fédéral. Mais un des éléments très, très impressionnants que j'ai entendu dans la série d'émissions, d'abord, j'ai envie de dire qu'au ministère des Communications, il a été excellent, et puis il a vraiment mis en place là, des programmes qui sont très profitables à tout le monde, finalement. À l'énergie, il a brassé ça, l'énergie, on n'était pas là, nous autres. Le Québec n'était pas là. Puis à la Défense nationale, la même chose. Et ce que j'allais dire, c'est que dans la série d'émissions, ça m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il a eu le réflexe de demander à ses fonctionnaires quelle proportion va au Québec. Il y a combien de fonctionnaires ici dans ce ministère-là, mettons, à l'énergie, qui viennent du Québec? C'est quelque chose comme 12%. Puis c'est toujours des pourcentages un peu ridicules. Alors, à la Défense nationale, c'est des gros budgets. C'est d'énormes budgets. Il dit qu'il a eu un pouvoir de signature jusqu'à 100 millions, sans qu'on lui pose de questions. Tu te rends compte, c'est pas beau, ça? Alors là, mais il pose la question. Des budgets de la Défense nationale, combien sont dépensés au Québec?
Et c'est sûr que les francophones ont eu des promotions dans ce temps-là. Il m'expliquait qu'au ministère de la Défense, c'est exactement ça. Pendant la première heure, on lui expliquait en anglais. Il m'a dit « Maintenant, expliquez-moi dans la deuxième heure en français. » Ah, » Et peut-être. Comme il n'y avait pas de fonctionnaires capables de le faire, ben là, il y a eu beaucoup. Il allait chercher les noms qui les faisaient monter assez rapidement.
Ça, c'est bien que tu le rappelles. Mais plus important, et c'est ça qu'il faut reprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut poser ces questions-là. Quelle proportion des budgets d'Ottawa atterrissent au Québec?
Ah ouais.
Hein? Et puis, aussi longtemps qu'on a un système fédéral, on peut avoir les opinions politiques qu'on voudra, mais il faut aussi pouvoir faire carrière à Ottawa. Hein? Il faut pouvoir aussi être présent. Et puis, quand il y a des contrats qui se donnent, et là, il disait aussi qu'il avait trouvé un truc, il n'acceptait pas qu'un concours soit fermé aussi longtemps qu'il n'y avait pas au moins 20 à 25 de candidats en provenance du Québec. Tant qu'on ne peut pas faire la preuve qu'il y avait au moins 20 à 25 venant du Québec, le concours restait ouvert. Parce qu'il voulait faire entrer des Québécois dans l'administration. Parce que Mars, c'est plutôt un type pour avoir... c'est une machine à idées. Alors, chaque matin, il était dangereux, il avait plein d'idées.
C'est un concepteur, mais aussi un entrepreneur. Il savait comment aller chercher les gens pour les faire travailler.
Oui. Puis ça avait du bon sens. Ça avait du bon sens, puis il savait qui réunir autour de la table, puis il savait les stimuler. Dans le temps où il avait accès à la caisse, il pigeonne en caisse. Puis le jour où il n'avait plus accès à la caisse, mais il savait qui avait accès à la caisse.
Alors, dans cette dernière phase de sa vie, toutes les initiatives qu'il a lancées, y a-t-il quelque chose en particulier que vous retenez? Parce qu'il a lancé plein de choses. La Société du patrimoine politique. Ouais. Il a été très présent pendant une quinzaine d'années à la Fondation Lionel Groulx, en même temps que vous.
Ouais.
Puis, il a brassé la cage pas mal, hein?
Oui. Il était énergique, hein? Il était énergique. Puis, c'est une qualité pas un défaut, là, mais j'allais dire, il doutait jamais de lui.
Il est fonceur.
Donc, si tu avais une autre opinion, il fallait que tu te lèves de bonne heure. Mais il théorisait. Alors, il avait son approche, puis il fabriquait tout un environnement pour justifier ce qui avançait. Il fabriquait... C'est un historien dangereux, hein, parce qu'il vous fabriquait tout un contexte historique. Oui.
Est-ce que vous faites allusion là, à la série d'entretiens qu'on va d'ailleurs rediffuser à Radio Ville-Marie?
Un peu.
Écoutez, c'est tout le temps...
Mais en même temps, cette série-là, c'est un cours d'histoire. Hein?
Mais il avait travaillé fort. Il avait préparé ses entrevues. Il avait préparé.
Même trop.
Moi, je disais toujours, il faut être plus spontané. Mais il arrivait avec des. Il avait préparé le dossier.
Écoute, il nous arrive avec toutes les curés de Joliette. Tu lui dis, vous ne nommerez quand même pas tous les curés de Joliette.
Ah non, il avait fait des recherches. D'ailleurs, il y a une banque de photos assez incroyable dans ses archives. Et moi, j'avais dit, au moment où il m'exprimait le désir d'écrire ses mémoires, j'ai dit, il faudrait d'abord mettre des noms sur tous ces visages-là parce que c'est Il a fait ça. Ouais. Il voulait vraiment écrire.
Le livre de Mesli, on cherchait des photos de Perfitte.
Ouais.
Normalement, ça devrait se trouver facilement, d'être des photos de Perfitte. Mais les seules photos de Perfitte qu'on a trouvées, ils arrivaient du fond de Marcel Mars. Et la photo qu'on a mise à la quatrième couverture, c'est Jean-Jacques Bertrand flanqué de Perfitte et Mars.
En tout cas, je souhaite qu'avec ces photos-là et avec toutes ces archives et avec les historiens, qu'on puisse réaliser un ouvrage intéressant et peut-être chez Septentrion.
Ah, ça, c'est une autre affaire.
Bon, ben merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité M. Marcel Mars. Alors, bonjour Marcel.
Bonjour.
Vous avez accepté de nous parler aujourd'hui de votre parcours qui est très lié à l'histoire politique du Québec. Vous avez fait carrière tant à Québec qu'à Ottawa. Vous avez commencé comme député de Montcalm où vous êtes devenu à 30 ans ministre d'État à l'éducation dans le gouvernement de Daniel Johnson père, puis réélu en 70 toujours avec l'Union nationale. À partir de 1974 jusqu'en 1993, on vous retrouve sur la scène fédérale où vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles. C'est l'échec de Meach en 1990 qui vous a ramené à Québec, où l'indépendance était à l'ordre du jour. Vous avez accepté à ce moment-là de travailler à la Commission nationale sur l'avenir du Québec en vue du référendum de 1995. Et par la suite, évidemment, on abordera avec vous votre implication dans les dossiers qui concernent l'histoire, le patrimoine et les lieux de mémoire. Donc, à Québec, comme à Ottawa et depuis 1994, vous avez toujours eu à cœur le développement du Québec. Avant votre première carrière à Québec, vous avez reçu une formation en histoire. Vous êtes historien et vous êtes un des rares hommes politiques à Québec à rappeler l'importance de notre histoire nationale et à faire prendre conscience aux Québécois de ce qu'ils doivent à leur passé français. D'ailleurs, toutes vos interventions en ce sens vous ont valu l'an dernier la médaille Béni Mérenti des Patriotes, médaille décernée par la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui, au cours de cette première rencontre, j'aimerais que vous nous parliez de votre jeunesse, de votre enfance, à Joliette, avant votre première carrière comme député ministre à Québec en 1966. Alors, vous êtes né en 1936 à Saint-Jean-de-Mata, où votre père était médecin. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de Joliette en 1937, de Joliette qui recrutait déjà pas mal d'hommes politiques?
D'abord, pour député, vous avez raison de souligner la partie enfance, la partie éducation. Je crois que ce qu'on accomplit plus tard, par exemple en politique, ou c'est la même chose ailleurs, vient énormément et même directement des valeurs dont on s'est imbibé au moment de notre enfance et de notre jeunesse. Dans ce sens-là, j'ai trouvé une citation il y a quelques jours de Régis Debray qui explique bien ce que je veux dire. Un homme hérite des valeurs que lui ont donné sa jeunesse et l'espace dans lequel il s'est confronté au monde. Donc, l'histoire et la géographie. Les événements que j'ai vécus, comment je les ai absorbés, comment ils m'ont marqué, et deuxièmement, le milieu dans lequel cela se produit. Je suis de cette période des années 30, 40 et 50 au point de vue de ma formation. Je suis dans une région Lanaudière, dans un milieu Joliette, qui est différent de l'Estrie ou de la région de Toronto ou de Paris. Je suis donc influencé par l'évolution qui m'a marqué et le milieu qui a, jusqu'à un certain point, conditionné mon évolution. Alors, on part donc de Saint-Jean-de-Matin, qui est une petite paroisse au nord de Joliette, une quarantaine de milles au nord de Joliette. Et à cette époque-là, mon père est médecin depuis 1930. Il a fait ses études à Joliette, à l'Université de Montréal, et il a pratiqué à Saint-Jean-de-Matin.
Vos ancêtres provenaient de France. Vous êtes d'origine française au départ.
Exactement. Le premier qui est arrivé ici, Pierre Masse, est venu s'établir ici vers 1641, probablement de la région de La Rochelle. Il faut se souvenir qu'à cette époque, à la région de La Rochelle, c'est le grand conflit entre les protestants et la France de Richelieu et de Louis XIII, et un malheur pour toute cette région-là. Probablement qu'il était protestant et a décidé de profiter de cette politique de la Compagnie des Sans-Associés, d'avoir des contrats de 3 ans. Donc, un seigneur de la région de Royan, Chavigny, l'a engagé, il est un des 3 engagés qui est venu s'établir ici à cette époque-là. De là, ça s'est développé vers à Deschambault, par exemple. Il a été le premier à qui on a donné une terre, mais tout ce monde-là est obligé de se rapatrier sur Québec parce que c'était l'époque des guerres contre les Iroquois. Alors donc, la famille Québec, Sillery, et puis un peu plus tard, quelques générations plus tard, la région de Berthier, l'île du Pas. Et puis de là, mon grand-père, lui, Saint-Thomas de Joliette, mon père Joliette, et moi dans la région de Joliette. Donc voilà le circuit qui nous a occupés. Et pendant ce temps-là, ma mère aussi est une composante de mon existence. Alors, elle, ses ancêtres viennent de la compagnie du régiment Carian, qui était ici au Québec vers 1665. De Québec, cette famille-là s'est établie tranquillement à Champlain, de Champlain à Berthier également, et puis finalement, tout ce monde-là a vécu dans la région de Joliette. C'est important parce que ça me permet de souligner. Quand on dit que c'est l'histoire qui nous conditionne, l'histoire, c'est également, ou peut-être d'abord, le peuplement. Ces gens-là sont venus s'établir ici, et c'est parce qu'ils sont venus s'établir ici que nous sommes ce que nous sommes actuellement, avec nos espoirs, nos difficultés, nos problèmes. Et c'est très, très marqué, les avantages et les inconvénients. À côté de la Nouvelle-France que ces gens développaient, il y a quand même eu l'Angleterre qui a développé ses colonies d'Amérique. Et si ça a commencé avec Champlain ici, rapidement, on réalise la disproportion de peuplement entre les deux territoires, alors qu'au fond, il faut se souvenir que la France, c'est 26 millions d'habitants et l'Angleterre, 5 millions.
Donc, c'était un très grand pays à l'époque.
C'est un très grand pays, mais il n'y a pas immigré. Mettons, 1641, on a des dates équivalentes pour les deux, il y a 540 habitants en Nouvelle-France. Quelques années plus tard, en 1671, on est 7000 ici et de l'autre côté de la frontière sont 120 000. Alors, quand on arrive au moment du clash entre les deux sociétés, 73, à peu près 70 000 de notre côté et 1 300 000 du côté des États-Unis. Alors, cette disproportion-là, je pense qu'elle est très importante. Elle est la base même de toute notre histoire jusqu'à un certain point, se retrouve dans ces chiffres. Voilà.
Mais revenons à Joliette. Oui. Là. Votre famille habitait Joliette pendant une longue période?
Oui. Mon père est venu s'établir à Joliette. D'abord, il est allé faire ses études en chirurgie dans les années 1937-38. Et puis, il s'est établi à Joliette et il a pratiqué sa médecine à l'hôpital à Joliette. Donc, à partir de ces années-là, là, moi, je suis toujours de Joliette, allé jusqu'à... Je suis décidé de déménager dans Montcalm pour les élections de 1966. Donc, à Joliette. Bon, Joliette, c'est une petite ville qui s'est développée, pas trop loin de Montréal, longtemps a été dans le diocèse de Montréal. C'est pour ça que Mgr Bourgette a joué un rôle majeur à Joliette et que le centre de Joliette s'appelle la place Bourgette. On était à cette époque-là dans le diocèse de Joliette. Donc, Barthélemy Joliette, dont le nom de la ville vient de là, est un notaire, disons, de 1823. Dans les années 30, il s'établit à l'Assomption, près de Joliette. Il se marie avec une dame de l'époque, Madame Marie-Charlotte Tarieux de Lanaudière, qui était fille de seigneur. Et de là, il hérite une partie de la seigneurie de Lavaltrie. et il est notaire, il veut développer sa seigneurie, il marche sa seigneurie. Il y a déjà un village qui s'appelle Saint-Paul à l'époque et il découvre le long de la rivière des chutes intéressantes pour établir un moulin pour le bois de siège. Et il réalise comme notaire qu'il y a un espace là au fond qui n'a pas été attribué entre les seigneuries qui longent le Saint-Laurent et les cantons qui sont un peu plus loin, parce qu'on a commencé à faire les cantons de Radon, de Kildare, de Chersey, en l'honneur de tous ces noms à consonance anglophone au nord de Joliette. C'est l'époque des cantons. Alors, il s'est établi, et puis il s'est assuré de recevoir par le gouvernement ces terres. Il a commencé à se développer là. Et tranquillement, la population s'est regroupée autour du moulin assis et Joliette a fait les élections à l'époque de l'Union. Il a été élu comme député. Il y a eu beaucoup de difficultés à le devenir, mais quand même, il l'a été. Et ça explique le côté conservateur de toute la région de Joliette, même jusqu'à aujourd'hui, où très peu de libéraux réussissent à se faire élire.
Ça, il y a eu beaucoup de conservateurs à Joliette en même temps. Hein?
Énormément. Et ça découle tout de l'action de Barthélemy Joliette. Mais Barthélemy Joliette n'a pas toujours été, selon notre grille d'analyse d'aujourd'hui, n'a pas toujours été extraordinaire puisqu'il était membre du Conseil spécial à l'époque de la question des patriotes. Bon, il a donc développé la région, son chemin de fer, et puis au point de vue de l'influence politique de la région de Joliette, il faut souligner Sir Mathias Tellier, qui est un des derniers à être honoré par l'Angleterre avec le titre de Sir, comme Sir Lomer Gouin, Sir Wilfrid Laurier. Alors, il y en a eu quelques-uns à cette époque-là.
Il était dans l'opposition, l'opposition conservatrice.
C'est ça. Il était le chef de l'opposition conservatrice au gouvernement de Lomer Gouin de 1909 à 1915. Mais si on va un peu plus loin pour bien marquer l'importance de cette région au point de vue politique, en 1960, Joliette est dans la région, qu'est-ce qu'on y trouvait comme homme politique du Québec? D'abord Antonio Barrett, le député de Joliette, qui était le premier ministre du Québec. Georges-Émile Lapalme, qui a longtemps été le député libéral fédéral de Joliette, et puis défait aux élections de 52 par Antonio Barrett, il s'est rapatrié à Outremont, mais il est de la région de Joliette.
En fait,
il est le chef de l'opposition.
C'est ça, de 50 jusqu'en 58.
Exactement, il est le chef de l'opposition. Donc le deuxième, l'Assemblée nationale qu'on dit aujourd'hui, l'Assemblée législative, était dirigée, son président était Maurice Tellier de Joliette, qui lui était député de la circonscription d'à côté de Montcalm. Au Conseil législatif, qu'est-ce qu'on trouve? Édouard Asselin, qui est le leader du gouvernement de l'Union nationale, qui, lui, est de la région de Sainte-Élisabeth, un village juste à côté de Joliette.
Ça, c'était à l'époque où on avait notre Sénat, là.
Exactement.
C'est l'Union nationale qui a aboli ça, je pense.
Oui, c'est ça. Mais, parlant de Sénat, il y avait le sénateur Sarto Fournier, qui était maire de Montréal et qui était sénateur de cette circonscription de Lanaudière, donc sénateur de la région de Joliette. Et pour ajouter à ça, puisque Sarto Fournier était le maire, le président du conseil exécutif de Montréal, qu'est-ce qu'on retrouve? M. Joe-Marie Savignac, qui, lui, est originaire de la paroisse Sainte-Geneviève-de-Berthier, juste à côté de Sainte-Élisabeth. Donc, c'est incroyable. Mais en 1960, on trouve tous les dirigeants politiques du Québec et de Montréal viennent tous de cette région.
Ça a dû vous colorer un peu, ça.
ça m'a coloré bleu aussi.
Et je pense votre femme aussi.
Exactement.
Une famille conservatrice.
Oui, exactement. On verra ça un peu plus tard, quand arrivera le temps des élections, que mon épouse, la famille Martin, est une famille conservatrice dont les premiers élus datent de l'époque de Georges-Étienne Cartier, c'est-à-dire avant la Confédération. Alors, voilà donc, sur le plan politique, cette région-là m'a marqué, c'est évident. Là.
Alors, votre jeunesse, comment ça s'est passé à Joliette? Vous êtes allé à l'école primaire chez les Sœurs de la Providence, je crois, puis au séminaire de Joliette, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement.
Et, vous aimiez les études ou donc, juste les activités parascolaires vous intéressaient
plutôt
plus?
Plutôt le parascolaire, on va voir ça. Donc, d'abord au Jardin de l'Enfance, donc c'est les Sœurs de la Providence, les quatre premières années, donc les Sœurs de la Providence, Émilie Gamelin, le parc ici. On leur a confié l'éducation des filles et des garçons aux Sœurs de la Providence par le curé Manceau, et qui est le premier curé, disons, important de Joliette, mais qui venait de Montréal. Mais un fait qui m'a marqué à cette époque-là, c'est le frère de mon père, qui, lui, après ses études au collège classique, a décidé d'entrer à la Société des missions étrangères. La Société des missions étrangères, c'est très important parce que quand on parle le Québec et sa vocation internationale et son action sur le plan international, c'est avant de l'être, comme actuellement par les milieux d'affaires et les fonctionnaires, ils l'ont été largement par le clergé. Et c'est les évêques du Québec qui, vers 1921, avaient créé cette Société des missions étrangères. Ce qui est remarquable, c'est que le premier supérieur, celui qui a organisé l'affaire, c'est le chanoine à Villeroque, qui était le premier supérieur et qui était avant ça curé de la cathédrale de Joliette. Et ce Roque-là fait partie de la famille de mon épouse.
Ah oui.
Et c'est dans cette société-là que le frère de mon père, Émilien, est entré, puis tranquillement, il a fait toutes les étapes, et finalement, il a été missionnaire en Chine, il a été préfet apostolique, et il est mort à 42 ans, en Mandchourie, à Sipinkai, à la suite de 19 mois de concentration, c'est l'époque de la guerre avec les Japonais, donc il est mort de maladie à ce moment-là. Donc ça aussi, ça m'a marqué sur le plan de l'ouverture à l'extérieur, sur le plan du leadership et du dévouement, ça fait partie de ce qui a marqué ma jeunesse. Alors donc, le Jardin de la France pendant 4 ans, et puis après ça, là on va du côté de la communauté des Clercs-Saint-Viateur, hein, 5e, 6e année, déjà d'ailleurs...
Vous étiez président de classe, je pense, à ce moment-là. Déjà, il y avait un leadership.
Dès la première fois où on a décidé d'avoir des présidents de classe, j'ai été élu en 5e année. Et régulièrement, j'ai réoccupé ces fonctions-là parce que c'est le fruit de ce que j'étais, mais aussi ça m'a formé à être responsable collectivement, disons, de la classe et puis tout ça, le groupe. Donc, j'ai été du côté des Clercs-Saint-Viateur pendant toutes ces années-là. Mais au point de vue de la formation, il y a trois volets, il y a trois systèmes qui m'ont marqué. On avait trois formes de regroupement à cette époque-là de jeunesse. Les croisés, la JEC et le scoutisme. Ça évolue un peu dans les années. Mais au début, les croisés, c'est le militantisme derrière le chef. C'est le parti politique jusqu'à un certain point. Disons que le militantisme, comment est-ce qu'on développe le réseau et puis l'organisation de la proposition pour laquelle on milite. Après ça, rapidement, la JEC, c'est un autre. Là, on intellectualise les problèmes.
Vous avez été dans la jeunesse étudiante catholique?
J'ai fait d'abord les croisés, j'ai fait la JEC, mais c'est pas dans ces deux-là que je me suis, épanoui, pour pas dire découvert. C'est plutôt dans le scoutisme, donc un petit peu une année ou deux après. Le scoutisme, contrairement à la JEC qui intellectualise le pays, le scoutisme qui est une école de formation, d'apprentissage de la société, parce que c'est le scoutisme qui t'oblige à marcher le pays et tu deviens imbu. Je veux dire, tu as absorbé jusqu'à un certain point le pays et dans ce sens-là, la fibre, disons, nationale vient du scoutisme, en tout cas pour moi, plutôt que de la JEC, qui, elle, est plutôt la fibre d'intellectualisation. Et l'exemple type, c'est Claude Ryan, je veux dire, qui avait une appartenance au pays du Québec très marquée, mais il intellectualisait le pays dans des formes de fédération, plutôt que dans des formes directes d'organisation du pays. Alors, j'ai été marqué par ça, le scoutisme, les Jamboree Scouts à Niagara, avec l'ensemble des autres pays, l'organisation des routiers que j'ai fondée à Joliette. Tout ça est une école de formation.
Vous étiez à ce moment-là chez les Clercs de Saint-Viateur à Joliette?
Oui, c'est à cette époque, ça, c'est l'époque des Clercs-Saint-Viateur. Alors donc, Joliette est marqué par Barthélemy Joliette et sa politique conservatrice. Il est marqué par les Sœurs de la Providence, responsables de ce qu'on appellerait le bien-être social, donc l'enfance, les jardins d'enfance, l'école primaire et le système des hôpitaux. Et les Clercs-Saint-Viateur qui, eux, sont arrivés à Joliette à la demande de Mgr Bourgette. C'est Barthélemy Joliette qui insistait pour avoir des gens pour encadrer son collège, comme il disait, son institution scolaire. Et ils sont arrivés en 1847 à Joliette. C'est une communauté qui vient de France, de la région de Lyon. Et c'est là qu'ils se sont établis. Et ils ont marqué, ils ont encadré Joliette sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, dans tous ces domaines-là, des êtres exceptionnels ont façonné la région.
Est-ce qu'on a des noms, peut-être, de quelques clercs inviateurs importants dans la région?
Oui, on peut en citer un. D'abord, qui marque Montréal, le premier, je dirais, Joseph Michaud, qui enseignait les mathématiques à la fin du 19e siècle, qui est un architecte. C'est lui qui a réalisé dans la région de Joliette des dizaines d'églises, y compris le fameux marché central de Joliette. Mais puisque ça, il a débordé et il s'est rendu jusqu'à Vancouver. Il a été responsable de la cathédrale dans la région de Victoria et ici même à Montréal. Monseigneur Bourgette lui a confié la cathédrale de Montréal, Ville-Marie, vient de Michaud. Et pendant ce temps-là, son collègue, c'est plutôt Victor Bourgeot de Lavaldrie, donc à côté de Joliette, qui lui aussi est un grand bâtisseur, un grand architecte de l'époque. Un peu plus près de nous, disons, après la dernière guerre, Gustave Lamarche, qui est bien connu comme poète et comme littéraire
au Québec. C'est celui qui a fait le manuel scolaire, ça.
Il a travaillé là-dedans avec le père Farley, si je me souviens.
Farley Lamarche, qu'on appelle.
Farley Lamarche, exactement. Wilfrid Corbeil, qui est bien connu comme artiste, comme peintre, et puis qui est l'initiateur du musée d'art de Joliette. Bruno Hébert, qui était un peintre bien connu. Maximien Boucher, qui était un sculpteur de cette époque-là. Et puis, dans le secteur de la musique, on peut retenir trois noms. Le père Roland Brunel, qui a été un pédagogue. C'est trois pédagogues. Le père Brunel, le père Bellemare, qui est celui qui était responsable de tout le pageant de 47 pour marquer le 100e anniversaire de l'arrivée des clercs inviateurs à Joliette. Et le père Lindsay, que tout le monde connaît, qui est également un grand pédagogue et qui a développé les chanteurs de la place Bourgette et puis finalement le festival de la Naudière. Donc, je donne quelques noms, mais on pourrait en donner beaucoup, beaucoup d'autres. L'abbé Lanoux, qui a été marqué parce que les clercs serviateurs et les prêtres, disons, des paroisses, étaient très fusionnés sur le plan intellectuel. Donc
c'est la vie culturelle de la région.
La vie culturelle de la région.
C'est la vie culturelle qui est marquée par les communautés religieuses.
Exactement, ça vient toujours du séminaire de Joliette. Et même les œuvres d'aujourd'hui, comme par exemple le musée et le festival, sont des œuvres qui viennent des clercs serviateurs.
Écoutez Nouveau regard sur notre histoire sur les ondes Radio VM au cœur de l'essentiel. Au microphone, Éric Lebel. Et maintenant, la suite de cette entrevue avec Marcel Mass qui se confie à notre collègue Robert Comeau.
Donc, à 20 ans, vous avez pris la décision d'aller à Montréal, à l'École normale Jacques-Cartier, pour étudier de 56 à 59. Qu'est-ce qui vous avait amené à l'enseignement? Est-ce qu'il y avait une matière en particulier ou c'était l'idée de devenir professeur ou instituteur, je ne sais pas?
Alors, pour résumer cette formation-là au début, moi, je n'étais pas tellement du côté d'absorber les cours puis de vouloir réussir à l'intérieur. J'étais plutôt du côté de l'organisation de la classe, d'organiser les déplacements, de discuter. Donc,
plus un animateur.
Un étudiant bien fidèle qui fait ses devoirs et ses leçons régulièrement. Et c'est un peu dans cet esprit-là que finalement, quand est arrivé le temps de poursuivre les études, j'ai été amené à l'École normale. D'abord, moi, je dirais, par intérêt pour l'histoire. Tranquillement, j'avais développé ça, ce besoin de comprendre la société ou ce besoin de comprendre ma classe, comprendre ma ville, comprendre ma société. C'est au fond, les réponses viennent de l'évolution de ces situations-là, donc de l'histoire.
J'aurais une question là-dessus. Est-ce que vous étiez déjà autonomiste, parce qu'on est en période 56-59, c'est la Commission Tremblay. Est-ce que vous étiez déjà un peu nationaliste ou autonomiste ou pour Duplessis dans ces années-là, vers la fin du régime Duplessis?
Pas à ce moment-là au niveau de l'École normale. C'est plutôt par les cours que j'ai suivis à ce moment-là. Des cours, entre autres, d'histoire, d'André Lefebvre, qui donnait des cours, qui est un historien bien connu, un des grands pédagogues qu'a connu le Québec et
qui avait été formé par Maurice Séguin, d'ailleurs, Lefebvre.
Qui avait été formé par Maurice Séguin. Donc, c'est là qu'on voit arriver, par l'enseignement et par les éducateurs, je veux dire, l'École de Montréal jusqu'à un certain point, parce que Joliette, c'est la région de Montréal et c'est dans la région de Montréal que j'ai étudié tout ça. Donc, à l'École normale, pour mieux comprendre la société, et puis j'ajouterais ce que je dirais l'appel du verbe, c'est-à-dire de verbaliser notre société, c'est-à-dire d'être capable de, par le verbe, de l'expliquer pour moi, plutôt que par l'écrit. C'est pour ça que je n'ai pas poursuivi, j'ai poursuivi plutôt en politique que comme historien à l'université, à faire des réflexions et des livres. C'est plutôt le fruit du verbe.
Qui la est tradition orale.
La tradition orale. Donc, le besoin d'expliquer, la pédagogie, le besoin d'organiser. Puis, c'était l'époque où, au fond, la démocratisation de l'enseignement permettait, ouvrait un nombre de postes pour toute une génération. Alors, j'ai été aspiré par ces questions-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'École normale dans les années 56-57. Là.
On vous trouve déjà, à ce moment-là, dans la Chambre de commerce des jeunes de Montréal. Vous avez même participé à une délégation auprès du premier ministre Duplessis. Qu'est-ce que vous revendiquiez dans ces années 50 auprès du premier ministre?
Moi, je dirais qu'il y a deux événements extérieurs à l'École normale qui m'ont marqué parce que j'y ai participé. Cet événement-là, je suis membre de la Chambre de commerce des jeunes à Montréal, donc tout en suivant les cours à l'École normale, je voulais quand même voir un peu ce qui se passait dans ma société à travers la Chambre de commerce. Et traditionnellement, la Chambre de commerce, à tous les ans, au mois de février, dépose un mémoire à Québec. Et cette année-là, en 58, le mémoire était la canalisation du Richelieu. On est à l'époque où de la canalisation du Saint-Laurent, la Chambre de commerce de Montréal s'inquiète de ça, veut compenser par une ouverture sur New York, toute l'année, et préconise l'idée de canaliser le Richelieu jusqu'à New York, et donc Montréal être le point de jonction des deux.
Est-ce qu'on avait vu à ce moment-là comment ça affaiblirait le port de Montréal? Parce que les bateaux maintenant passent tout droit. Avant, ils s'arrêtaient à Montréal par obligation.
Moi, je dirais que pas autant que ça s'est produit. Mais on sentait
on
craignait déjà que, comme Montréal avait vidé le port de Québec, en canalisant le Saint-Laurent à Montréal, le port de Québec est disparu. Et là, on canalise maintenant pour aller au Grand Lac. Alors, une partie du port de Montréal s'en va vers les Grands Lacs. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais pour compenser ça, donc, l'idée était de canaliser le Richelieu. Alors donc, je me rends avec une dizaine d'autres jeunes de la Chambre de commerce. On rencontre Duplessis, le 13 février d'ailleurs. Duplessis nous reçoit en fin d'avant-midi dans la salle qu'on appelait la salle des billes privées, c'est-à-dire aujourd'hui la salle des comités à Québec. Alors, il était tout heureux, il était accompagné du ministre de l'Industrie et Commerce, Paul Beaulieu. Alors, pendant une heure ou un peu plus d'une heure, il a discuté avec nous, très détendu, très heureux. Et puis après ça, on a été invité à déjeuner par Paul Beaulieu dans un restaurant du coin. Alors, c'était la première fois que j'avais, disons, que je pourrais dire que j'ai déposé un acte public, c'est-à-dire fait un acte public, déposé un mémoire dans le système parlementaire à travers Duplessis.
Vous aviez 22 ans. Est-ce que vous étiez militant déjà de l'Union nationale?
Non, je n'étais pas militant. Non, j'étais pas militant, mais j'ai eu ça. Et puis, Joliette, c'est à côté de Trois-Rivières. Alors, quand Duplessis est décédé en 59, comme la plupart des gens de ma région, on s'est tous rendus à Trois-Rivières pour assister aux funérailles de Duplessis. Mais une autre chose qui m'a marqué, c'était l'année précédente, On est à l'époque de la construction de l'hôtel Reine-Élisabeth, qui s'appelait évidemment Queen Elizabeth. Alors là, on tombe le fameux Donald Gordon, qui était le PDG du Canadien national. Et je me souviens fort bien d'avoir participé ici à la place Duville à une première manifestation avec, je ne sais pas, quelques centaines d'étudiants pour vomir au GM et tout ce que vous voulez. Gordon qui refusait, parce que le pire, c'est qu'il répondait en plus de ça, c'est parce qu'il n'y en a pas de Canadiens français compétents, c'est pour ça qu'il n'y en a pas au Canadien national. Alors ça m'a réellement marqué, et ça m'a marqué au point que tout le long de ma carrière politique, la question du français a été une préoccupation première pour moi. Et lorsque je me suis retrouvé au gouvernement fédéral dans chacun des ministères, je me suis penché rapidement sur la situation du français, de l'utilisation du français et de ce que ça implique, non pas du bilinguisme à la Trudeau, mais de la présence réelle, disons, à André Laurando, si je peux m'exprimer ainsi, donc la question culturelle, dans les ministères et les correctifs qui pourraient être autorisés. Mais ça explique que ce qu'on a vécu quand on est dans notre jeunesse, et puis y compris les études secondaires et universitaires, marque beaucoup le reste de notre carrière. Et souvent, on comprend pourquoi on a posé tel geste, même nous, par la réflexion à revoir où est-ce qu'on a été marqué, et c'est vrai aussi pour les autres qui essaient de comprendre pourquoi on est de telle façon.
Et d'ailleurs, ça bougeait aussi beaucoup à l'École normale Jean-Cartier. Il y avait de l'ébullition, on contestait l'autorité, mais je pense que vous ne l'avez pas eu facile non plus. Hein?
Oui.
Dans ces années-là, à l'École normale Jean-Cartier, il y avait une direction assez ferme. C'est comme ça, donc, que vous avez pu rentrer en 1959, donc au département d'histoire de l'Université de Montréal.
Exactement. Et là, je me retrouve à plein temps comme étudiant. Après ça, ça a été à temps partiel. Donc, avec Maurice Séguin pour toute la question des normes. J'ai suivi les cours de Brunet parce que c'était les États-Unis. C'est toujours l'idée de comparer un peu notre société avec celle des autres. Jean-Pierre Hoileau, que je retrouverai, que je nommerai archiviste du Canada plus tard, qui lui était responsable, c'est-à-dire son enseignement de l'époque de l'Union des années 1800. Je me souviens de Roland Lamontagne, parce que Frégo était déjà parti pour Ottawa. Lamontagne qui enseignait l'administration de la Nouvelle-France, et puis le père Papillon, le Moyen-Âge. Alors, c'est un peu les cours que j'ai suivis à cette époque-là, et c'est là que je me suis retrouvé suite aux enseignements d'André Lefebvre, enseignement d'ailleurs qui était basé sur le mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste à la Commission Tremblay. C'était le manuel de base pour Lefebvre, parce que Lefebvre avait comme idée qu'on enseigne l'histoire par aujourd'hui, dans les phénomènes d'aujourd'hui. Alors, le phénomène d'aujourd'hui était la pensée politique, disons, de la Société Saint-Jean-Baptiste à la Commission Tremblay, qui encadrait le débat constitutionnel. Donc, on est parti de ce mémoire-là. Alors, on voit pourquoi la question constitutionnelle, rapidement, m'a marqué par Lefebvre et après ça, les explications peut-être de l'agir par soi, de Séguin, tout ça ont conditionné pourquoi, quand arrivera la question de l'Union nationale, je suis entré en politique par la question constitutionnelle.
Effectivement. Durant les années 50, dans ce mouvement-là d'affirmation nationale, il y avait un désir marqué de réforme du cadre constitutionnel canadien. Hein? C'était peut-être à l'approche du centenaire de la Confédération en 67. On peut dire que dès 62, 63, il y avait partout, dans tous les partis politiques, il y avait une volonté de changer ce cadre-là pour arriver à reconnaître les deux nations. C'est l'époque des deux nations. Et d'ailleurs, c'est en 63 là, que Laurando Danton va être créé, cette commission sur le bilinguisme. Donc vous, à ce moment-là, vous finissez vos études à l'Université de Montréal et vous décidez de partir pour l'Europe.
Exactement. Alors, au point de vue constitutionnel, il y a ce que vous exprimez, une volonté, ça bougeait dans les partis politiques, mais c'est parce qu'il y avait eu quelque chose avant, c'est que à la fin des années 30, après la crise économique des années 30, le Canada a compris qu'il devait avoir des pouvoirs plus importants sur le plan de l'économie, et c'est comme ça qu'a créé la Banque du Canada, à la suite des événements des années difficiles sur le plan économique. Donc, le gouvernement fédéral se donnait un rôle de plus en plus majeur. Mais là est arrivée la guerre. Et pendant la guerre, le gouvernement fédéral a rapatrié tous les impôts. Et après la guerre, il y a eu, surtout après la guerre de Corée, il y a eu, disons, beaucoup d'argent dans le secteur public, mais contrôlé par Ottawa, mais avec des responsabilités des provinces. Alors, l'éducation, la réforme scolaire n'est pas venue n'est pas venue des airs. Elle est venue du besoin, de demander, démographique de la société. Alors, le gouvernement canadien voulait avoir une constitution selon ses besoins, mais pour faire la constitution, il fallait qu'il amende la constitution actuelle. Donc, les provinces, à travers l'idée d'amendement, quelles sont les formules pour amender les amendements? Formule Fulton-Favreau, hein? Fulton, qui était le ministre de la Justice conservateur, ajouté, disons, aux amendements de Favreau, qui était le ministre de la Justice pour les libéraux, donc la fameuse formule
Fulton-Favreau,
est la clé qui a permis à nous, au Québec, de s'interroger beaucoup là-dessus et d'exiger une constitution en fonction de nos besoins à nous et non pas nécessairement une constitution pour le Canada en fonction de leurs besoins à eux, sans tenir compte des nôtres. Mais là, on avait une clé. La clé était qu'il faut que cette formule d'amendement, il faut être d'accord. Et pour être d'accord sur la formule d'amendement, on va d'abord discuter la répartition des pouvoirs. Alors, c'est à partir de là que la commission Tremblay a fait cette réflexion pour le Québec, a proposé un rapport qu'on connaît, qui marque notre discussion à ce moment-là. De là, chacun des partis se définit à l'intérieur de ça. Les libéraux vont définir leur approche et puis l'Union nationale va définir la sienne. Donc, la question constitutionnelle est beaucoup dans l'air. Je termine mon école normale et à ce moment-là, je décide de poursuivre ma réflexion sur l'histoire et je demande à m'inscrire à Paris en sciences politiques. Alors, j'ai fait une année en sciences politiques à Paris et une année pour ce que j'appelle la civilisation britannique et le Commonwealth. C'était à London College à Londres. En sciences politiques, qu'est-ce qui m'a marqué? Premièrement, la géographie, c'est que l'Institut des sciences politiques de la rue Saint-Guillaume est contigu par les cours à l'École nationale d'administration publique. Et en général, la première école conduit à la deuxième. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de mon histoire parce que j'étudie et j'ai un copain qui, lui, est à Paris, avec lequel on passait nos week-ends, on a voyagé énormément, qui est Bernard Bonin. Les deux épouses sont devenues des amis. Bernard Bonin enseignait au HEC ici. Il a été bien connu. C'est lui qui a fait des études avec Parizeau sur la souveraineté du Québec et puis finalement qui est monté jusqu'à sous-gouverneur à la Banque du Canada. Alors, à un moment donné, j'ai fait revenir Bonin à Joliette pour des conférences à la Société Saint-Jean-Baptiste et on verra réapparaître l'École nationale d'administration publique. Mais au fond, qui étaient les cours que j'ai suivis? Bon, évidemment, l'histoire du 20e siècle avec Louis Chevalier, l'histoire des idées politiques de toute cette période-là. Et ce qui m'a marqué également, René Raymond. Mais ce qui avait d'intéressant dans les noms connus, c'est Jacques Chirac, qui, après ça, tranquillement, a fait de la politique. À ce moment-là, il était maître de conférences. Alors, une fois par semaine, il y avait toujours une demi-journée où les thèmes étaient marqués d'avance. Et il y avait des réunions avec peut-être des étudiants étrangers. On était peut-être 15-20. Et celui qui dirigeait ça à chaque semaine, c'était Jacques Chirac, qui, après ça, est devenu, quelques années plus tard, le président de la France.
À votre retour, là, en 62, vous avez commencé à enseigner à la commission scolaire de Joliette. Comment s'est fait le lien avec le ministère d'Éducation? Vous connaissez déjà Denis Vaugeois, qui avait un poste, je crois, comme directeur de l'enseignement de l'histoire. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à connaître Denis? Ou...
Oui, Denis Vaugeois, je l'ai connu parce qu'il est de Trois-Rivières. Jacques Lacourcière est de Trois-Rivières. L'abbé Boulet est de Trois-Rivières, celui qui est Gilles Boulet, qui deviendra plus tard le recteur de l'université. Donc, Joliette est pris littéralement entre Trois-Rivières et Montréal. Donc, on a des relations à travers les deux. Alors, les relations de Société Saint-Jean-Baptiste, donc les questions nationales, se font beaucoup avec Trois-Rivières, avec le séminaire de Trois-Rivières, avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Trois-Rivières. Et c'est comme ça que j'ai connu tranquillement Vaugeois. Et ce qui est intéressant, indépendamment des activités syndicales auxquelles je me suis intéressé pendant ces années-là, au point de vue pédagogique, Vaugeois était devenu à ce moment-là, en 66, au printemps 66, directeur de l'enseignement de l'histoire au ministère de l'Éducation. Il avait formé un petit groupe consultatif d'enseignants, j'en étais, pour discuter du programme d'histoire, mais surtout pour préparer les examens, les questions aux examens, puis assurer la correction. Alors, c'est ainsi que ce qui était un peu cocasse, c'est qu'au printemps 66, je fais partie avec Vaugeois de ça, et je travaille les questions. Les élections arrivent au mois d'avril, je sors de l'école parce que je ne peux pas faire les deux en même temps, donc je fais la campagne électorale. Après la campagne électorale, au début de mai, je corrige des fameuses copies et je les apporte à Québec comme délégué à l'éducation et j'appelle Vaugeois pour lui remettre les copies. Alors, il y a eu, pendant cette correction-là, des étapes qui m'ont également marqué. Mais en parallèle de ça, c'était d'abord les activités syndicales. Je rentre d'Europe en 62 et rapidement, on participe aux assemblées d'étudiants dès le début de l'année. Et quelques mois plus tard, les enseignants décident à la première occasion et je suis élu président du syndicat de l'Association des professeurs de la région de Joliette. Alors, l'année suivante, tout en étant responsable de ça, je deviens responsable de la Fédération des instituteurs et institutrices du diocèse de Joliette. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'amène à siéger, à travailler avec la Corporation des enseignants du Québec, à cette époque-là, la Corporation des instituteurs, la CIC, qui deviendra la CEQ, donc qui m'amène régulièrement à Québec. Mais au point de vue syndical, cette époque-là, on négociait convention collective par convention collective par commission scolaire. Et il y avait des dizaines de commissions scolaires. Chaque ville, chaque village avait sa commission scolaire. C'était pas centralisé. Donc, j'avais à négocier, comme président de la fédération, diriger la négociation. On avait 10, 12, 15 conventions collectives par année. Alors, donc, ça devenait, en plus de suivre des études à l'Université de Montréal en histoire, à m'occuper de toutes sortes d'autres choses dans la région. Alors, je me suis assuré avec la commission scolaire de Joliette de pouvoir avoir un adjoint. Et celui qui se révélait, c'était Guy Chevrette. Alors, Guy Chevrette a été mon adjoint pendant ces 2-3 années-là. Et ce qui lui a permis, lui, de développer sa carrière comme telle et puis de devenir négociateur avec, et puis finalement, ministre du Travail. C'était l'époque où les enseignants était très marqué par l'évolution de la fonction publique. Il y a eu des lois, la loi qu'on appelait la loi 45, là, qui autorisait le syndicat dans la fonction publique, mais pas pour les enseignants. Alors, il y a eu énormément de manifestations, de débats à cette époque-là, en 64, autour de cette question-là, de s'assurer que les enseignants auraient les mêmes droits que l'ensemble des fonctionnaires. Alors là, ça a été une période, cette année-là, très active, en tout cas pour moi, au Conseil général, puis chez les dirigeants de la CIC à Montréal, à Québec, pardon. C'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à une des réunions, là, en 64, où la reine Élisabeth arrivait à Québec en 64, là, ce fameux samedi de la matraque. Alors, je me suis retrouvé là parce que on avait notre réunion le vendredi, le conseil général de la CIC. Alors, je suis allé voir ça au Parlement et j'étais au coin de la rue où j'ai vu passer la reine pour se rendre au Parlement comme tel.
À ce moment-là, l'option indépendantiste avec le RIN qui avait été fondé en 1960, comment vous voyez ça? Il y avait aussi le ralliement national en 1966 qui va apparaître. Mais comment vous vous situez par rapport à ça? L'Union nationale de Daniel Johnson, père, semblait, je dirais pas favorable, mais au moins bienveillant par rapport à cette idée-là. Il n'a pas attaqué directement ce projet-là. Est-ce que c'était un peu votre point de vue dans ces années-là?
Alors, j'ai été mêlé à cette question-là de la façon suivante. C'est que je m'occupais également de la Société Saint-Jean-Baptiste dans ces années. Quand je suis revenu en 62, j'étais nommé président du comité d'orientation. Puis après ça, je me suis fait élire président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et la Société Saint-Jean-Baptiste, il ne faut pas oublier, était, tout en étant un mouvement d'action, était aussi un mouvement d'éducation. Et j'étais de ceux qui avaient, pour s'assurer, disons, de bien connaître l'ensemble de la situation, des options. Si d'une part, par exemple, pour donner un exemple, Marcel Faribault était le conférencier lorsque j'ai été élu président de la Société Saint-Jean-Baptiste dans un congrès à Saint-Gabriel-de-Brandon, qui expliquait, disons, les réformes possibles à l'intérieur du fédéralisme. Pendant ce temps-là, nous organisions aussi des conférences où Marcel Chaput est venu, où M. Barbeau, dans un autre tantôt est venu, M. Dallemagne sont venus à Joliette. Alors, on a organisé des conférences avec François-Albert Anger. Alors, au départ, pour nous, c'est dans le cadre d'un mouvement qui doit s'assurer que ses membres et la population en général sont bien au fait, et l'ensemble de ces gens-là sont venus donner des conférences à Joliette.
On parlait beaucoup d'émancipation. En 63, à Joliette, vous organisez un débat avec François-Albert Anger sur le thème « La Confédération est-elle encore valable? » Donc, j'imagine que déjà, au début des années 60, vous étiez assez nationaliste parce que en 64, on vous retrouve à l'Organisation des États généraux du Canada français, qui était un des éléments de proposition du programme de l'Union nationale en 62. Donc, au fond, vous étiez très nationaliste.
On était au milieu d'un brassage énorme. Et vous avez raison de rappeler que l'idée des États généraux vient de Daniel Johnson. On l'oublie. Parce que les élections de 62 sont tellement marquées par l'électrification, la nationalisation d'Hydro-Québec, on oublie tout le reste du programme. Mais Daniel Johnson préconisait justement d'organiser les États généraux. Et la Société Saint-Jean-Baptiste rapidement est devenue le mouvement qui va initier l'organisation des États généraux. Et pendant ce temps-là, il y avait le débat constitutionnel sur Fulton Favreau nous a amené Jacques-Yvan Morin, qui dénonçait cette formule-là. L'Union nationale dénonçait la formule. Lesage était de plus en plus isolé. Les sociétés Jean-Baptiste, qui avaient beaucoup travaillé avec Jean Lesage pour l'étatisation de l'électricité, se retirent tranquillement et se retrouvent de plus en plus autour de l'Union nationale. Et là, il y a des discussions entre l'Union nationale et Pierre Bourgault. Comment est-ce qu'on travaille ensemble et on partage un certain nombre d'idées? À ce moment-là, au début, le RIN n'est pas un parti politique, est un mouvement plutôt qu'un parti qu'il deviendra quelques mois plus tard. Donc, il y a un moment donné là où tout ce monde-là se connaît, travaille ensemble et essaie de se positionner. Là.
Effectivement, c'est l'époque où Lesage, au départ, se disait d'accord avec la formule Fulton-Favreau, puis il a envoyé l'évêque essayer de défendre ça à l'Université de Montréal. Je me souviens très bien que c'était Jacques-Yvan Morin qui avait littéralement combattu l'évêque sur ça, et par la suite, l'évêque a fait mourir cette idée de formule Fulton-Favreau. Et l'Union nationale, comme l'évêque, comme d'autres, disait, comme Jacques-Yvan Morin, que cette formule-là empêcherait le Québec d'aller chercher d'autres pouvoirs. Donc, c'était toujours dans l'espoir que le Québec pouvait aller chercher d'autres pouvoirs. Et c'est là, j'imagine, que vous avez été tenté par la politique vers 66. Peut-être que cet épisode-là, on pourra le reprendre par la suite. Alors, ça sera l'autre chapitre sur votre carrière à Québec. On doit s'arrêter là, le temps manque. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette intéressante introduction à votre vie politique.
Ça a été un plaisir. Merci.
Vous venez d'entendre la première d'une série de 7 émissions consacrées à Marcel Masse, décédé le 25 août dernier à Sainte-Agathe-des-Monts. Nous diffuserons d'autres extraits de ce témoignage la semaine prochaine. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org, en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio VM à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.